Chapitre 31. Après les quelques paroles que Clémence lui avait lancées à travers la porte, Louis était resté un moment abasourdi. La surprise, en effet, était grande, le coup était fort, car s'il s'attendait à un retour et le croyait même probable, ce n'était point de ce côté. Mais bientôt, il comprit comment les choses s'étaient passées, et le souvenir des paroles de son oncle lui revenant éclaira ce que tout d'abord il n'avait pas vu. Maintenant, que faire? L'idée lui vint de partir aussitôt sans attendre le jour. À quoi bon rester? S'il avait pu si difficilement arracher cette rupture au marquis alors que Clémence était éloignée, qu'obtiendrait-il lorsqu'elle serait là pour se défendre? Il aurait à supporter son sourire moqueur, il aurait à entendre les plaisanteries de son oncle, voilà tout. Mais cette idée ne fit que traverser son esprit. Qu'importaient les moqueries de l'une et les plaisanteries de l'autre? Ce serait une lâcheté de déserter la lutte, il devait aller jusqu'au bout. Il ralluma sa lampe et, prenant un livre, il se mit à lire pour passer le temps avec moins d'impatience. Vers 6h30 du matin, la porte de la bibliothèque qui donnait sur le parloir s'ouvrit et M. de Carquebut entra. Il avait un air narquois et il se frottait les mains comme un homme qui s'est éveillé de bonne humeur. « Au travail, dès le matin, » dit-il en regardant le livre que Louis lisait. « C'est malsain, ça, mon garçon. Il faut travailler, c'est juste, mais il faut aussi se faire une raison et ne pas sacrifier son sommeil. Tu n'as donc pas bien dormi ?» Louis regarda son oncle en face. Puis, après un moment de silence, « J'ai été éveillé, dit-il, par l'entrée de Madame Beaujonnier chez notre cousin. » Monsieur de Carquebus fit un saut en arrière, mais bien vite, il reprit son assurance. « Elle t'a donc passé sur le corps. Vois-tu que j'avais raison de te proposer mon revolver ?» Louis garda son calme. « Elle a passé par la fenêtre que vous aviez eu soin de laisser ouverte. » Monsieur de Carquebus fut pris d'un rire irrésistible et les éclats de sa voix firent trembler les vitres. « Tu as deviné le tour, s'écria-t-il. N'est-ce pas qu'il a été bien exécuté ?» Et les deux mains posées sur ses cuisses, le corps courbé en avant, il s'abandonna sans rire. « Et quelle tête tu fais ? » disait-il quand il se calmait un peu. « Quelle bonne figure ! Non, vrai, tu vas me faire mourir !» Puis, tout à coup, s'arrêtant, « Elle t'a donc parlé ? » demanda-t-il. Louis ne répondit pas, mais le regard qu'il lança à son oncle fut tel que celui-ci baissa les yeux. « Allons, allons, dit-il, il faut être meilleur joueur que cela. Tu es battu, eh bien, tu es battu. Est-ce que j'ai pris ces airs méprisants quand tu t'es fait le gardien d'Arthur ? Cependant, la chose était assez vive. Tu arrivais ici et tu y parlais en maître, tu commandais. On ne devait t'obéir qu'à toi. J'avoue que ça m'a déplu. J'ai trouvé un moyen de te couper l'herbe sous le pied, j'en ai profité. » Et puis, cette considération mise de côté, il y en a une autre encore qui m'a décidé à intervenir. Pourquoi voulais-tu faire le malheur d'Arthur? Je ne veux pas qu'on le tourmente, le pauvre garçon. Laissons-le mourir en paix. Crois-tu que tu n'aurais pas abrégé ses jours avec tes médecins et tes chanoines? De quel droit es-tu venu lui enlever Madame Beaujonnier qui le rendait heureux? Oh, en tout bien, tout honneur, il n'y a que les hypocrites pour soutenir le contraire. Je sais à quoi m'en tenir, peut-être, moi qui les vois tous les jours. Eh bien, je te dis qu'en le privant des soins de cette petite femme, tu abrégeais ses jours. Je n'ai pas voulu de ça. C'est alors que nous avons inventé le tour de la fenêtre et il a été bien exécuté. Monsieur de Carquebus aurait pu parler ainsi pendant des heures. Louis était assis et il se tenait le menton appuyé sur sa main, calme, immobile, sans même un froncement de sourcils, comme s'il avait été sourd. À la longue, ce silence troubla M. de Carquebus et l'intimida. Il se sentit mal à l'aise. Il eût voulu une contradiction, un mot de colère, qui lui permisse de continuer. « Tu ne me réponds pas, » dit-il en s'arrêtant. « Je n'ai rien à vous dire, puisque vous êtes mon oncle. »« Ah, c'est comme cela !» s'écria M. de Carquebus. « Eh bien, moi, j'ai quelque chose à te dire. C'est que tu es un ingrat et un insolent. Je venais à toi pour t'aider à faire la paix avec Arthur. Tu t'arrangeras comme tu voudras. Je m'en lave les mains. Ingrat ! Ingrat !» Et sur ce mot, il sortit de la bibliothèque, roide et fier. Louis voulut reprendre son livre, mais il lui fut impossible de concentrer son attention sur sa lecture. Les paroles de son oncle lui emplissaient les oreilles et un sentiment de honte lui soulevait le cœur. Cet homme était le frère de sa mère. Enfin, vers 8 heures, la porte de la chambre du marquis s'ouvrit et Clémence parut. Louis se leva, calme en apparence, mais en réalité frémissant. « Quand je me suis présentée hier matin, dit-elle, vous étiez placée devant cette porte. Moi, aujourd'hui, je vous l'ouvre. Voulez-vous venir auprès de votre cousin qui désire vous parler ?» Sans rien dire, Louis la suivit. Le marquis était levé et il se tenait assis dans son fauteuil. En voyant Louis s'approcher, il baissa les yeux et il resta quelques secondes sans prendre la parole. « Mon cher enfant, dit-il enfin, il s'est passé bien des choses depuis hier au soir, de sorte que nous avons besoin de nous entendre ce matin. C'est pour cela que je t'ai fait appeler. » Louis se tenait debout devant le marquis et Clémence, derrière lui, s'était appuyée sur la cheminée. En parlant, c'était elle que le marquis regardait. Par-dessus l'épaule de Louis, elle lui fit signe de continuer. « J'avais pris, dit-il, une résolution tout à fait au-dessus de mes forces, et je l'ai donc abandonnée. Mais ce changement n'apportera aucune modification à nos relations. Le malentendu qui existait entre nous ayant été dissipé, il n'y a pas de raison pour que je ne reste pas à ton égard ce que j'étais hier. » Louis se trouva terriblement embarrassé. Il ne s'était point attendu à cet accueil. Quand Clémence était venue lui ouvrir la porte, le sourire aux lèvres, il avait cru qu'elle allait prendre sa revanche de la veille, et s'il s'était préparé à quelque chose, c'était à sortir de cette maison avec dignité. Mais ce n'était point de sortir qu'on lui parlait, c'était au contraire de rester. Était-ce une ruse préparée par Clémence pour l'obliger à refuser? Il y avait de grandes probabilités pour le croire. Sans doute, elle voulait employer de nouveau le système qui lui avait si bien réussi avec sa lettre d'invitation. Elle se donnait ainsi le beau rôle, celui de la générosité, et à son adversaire, elle imposait le vilain. Si elle le faisait prier de continuer des relations intimes avec son cousin, c'était pour qu'il n'acceptât pas cette proposition. Alors, elle exploiterait habilement ce refus, et de nouveau, le sort de Denise se trouverait compromis. La situation pour lui était donc difficile et cruelle. D'un côté, son devoir lui ordonnait de ne pas faire à la proposition de son cousin un autre accueil que celui qu'il avait fait à la première. Tandis que de l'autre, son intérêt, uni à celui de Denise, lui commandait de ménager la susceptibilité du marquis afin de ne pas arriver à une nouvelle rupture qui, nécessairement, aurait une grande influence sur son mariage. En gardant ses entrées à Rudemont, il pouvait surveiller Clémence et, dans une certaine mesure, déjouer ses machinations. En les refusant, au contraire, il la laissait maîtresse absolue d'entreprendre tranquillement tout ce qu'elle voulait. Comme il pesait le pour et le contre, n'osant s'arrêter ni à l'un ni à l'autre parti, le marquis insista. « Eh bien, dit-il, tu ne me réponds pas ? Je pense à Denise. Que devient-elle dans ces nouveaux arrangements ?» « Elle devient ta femme. Tu as ma promesse, je ne la reprends pas. Vous vous aimez, elle sera ta femme. » Louis regarda Clémence par un mouvement involontaire. Alors elle se mit à sourire. « Demandez à monsieur le marquis, dit-elle, si je n'ai pas, de toutes mes forces, appuyé ce mariage. » Louis ne comprenait plus ce qui se passait. Il regardait le marquis, il regardait Clémence, cherchant à deviner ce qui pouvait rester caché derrière ses paroles. Oui, son cousin était sincère. Mais elle, quel était son plan? À quoi voulait-elle arriver? « Elle sera ta femme, mon cher Louis, continua le marquis. Seulement, je te demande quelques mois avant de faire le mariage. » « Quelques mois? Oui, nous devons entreprendre assez prochainement un voyage. » À notre retour, nous vous marierons. Tu vois donc que les craintes dont tu m'as entretenu ne sont que des chimères. » Des chimères? Ah, plût à Dieu! Mais par malheur, elles ne sont que trop réelles et les dangers que je redoutais n'ont jamais été plus menaçants. Je les vois maintenant, car tout à l'heure, j'ai failli me laisser surprendre. Ah, pauvre Denise, en voulant te sauver, je te sacrifiais. » Il parlait avec exaltation, fixant sur Clémence des yeux qui jetaient des flammes, étendant vers elle sa main menaçante. « N'est-ce pas, madame, continua-t-il, que cela servirait bien vos projets si nous consentions à venir ici justifier et légitimer votre présence dans ce château? Quelques mois suffiraient, n'est-il pas vrai, ce qu'on me demande, avant de consentir à mon mariage. Et pendant ces quelques mois, Denise resterait livrée à la sœur Sainte-Ursule. » Alors, se tournant vers le marquis, stupéfait de cette véhémence, « Je vous ai dit hier qu'on vous trompait et je vous l'ai prouvé. Aujourd'hui, devant madame, je vous le répète. Depuis 2 ans, on vous trompe. Maintenant, on vous trompe encore. » « Et qui trompe, monsieur le marquis ?» demanda Clémence en avançant d'un pas. « Vous, madame, qui, craignant la sainte et pure influence qu'une enfant exerçait sur mon cousin, vous avez fait placer cet enfant à Sainte-Rutilie. Vous qui avez voulu la contraindre à entrer en religion, vous qui, aujourd'hui, recourez à je ne sais quel moyen ténébreux pour la maintenir malgré tout dans cette prison. » Elle haussa les épaules. « Moquez-vous de moi et appelez, si vous voulez, monsieur de Carquebute à votre aide. Il vous soutiendra. » Clémence fit un signe au marquis et celui-ci aussitôt se leva. « Il suffit, dit-il, nous n'avons plus qu'à nous séparer. Vous avez repoussé la main que je laissais tendue vers vous, je la retire. Adieu, monsieur. » Louis hésita un moment, comme s'il voulait continuer l'entretien quand même. Mais que pouvait-il dire, ou plutôt, que pouvait-il faire entendre ?